Il est 7h44 à Paris, tout de suite, la revue de presse africaine. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une de nouvelles taxes qui font débat au Mali.
Oui, le paiement numérique est de plus en plus répandu sur le continent. Paiement sans contact, paiement en ligne, transfert d'argent. Les entreprises et les consommateurs adoptent de plus en plus ces solutions, pointe le site d'information malien MaliJet. L'économie des paiements numériques en Afrique est appelée à se développer de plus en plus, selon un rapport commandé par Mastercard, qui indique que ces paiements devraient atteindre 1,5 milliard de dollars d'ici 2030. Autre chiffre fourni par MaliJet, selon la Banque mondiale, l'Afrique a effectué environ 100 milliards de dollars de transferts de fonds en 2023, ce qui représente environ 6% du PIB du continent.
Alors certains États ont décidé de taxer ces mouvements de fonds, dont le Mali.
En effet, note Sahel Tribune, autre site malien, le gouvernement a récemment instauré plusieurs taxes qui affectent directement les consommateurs et les acteurs du commerce digital, créant ainsi un impact considérable sur l'économie numérique. Parmi les principales mesures, on note une taxe de 10% sur les recharges téléphoniques qui réduit directement le montant crédité aux utilisateurs. Par exemple, une recharge de 1000 francs CFA ne crédite plus que 900 francs CFA, ce qui pénalise bien sûr les utilisateurs réguliers de services mobiles. De plus, une taxe de 1% sur les retraits via mobile monnaie a été introduite, rendant les transactions financières plus coûteuses pour les commerçants et pour les consommateurs. Résultat, pointe encore Sahel Tribune, depuis l'entrée en vigueur des nouvelles taxes sur les télécommunications au Mali, de nombreux commerçants en ligne peinent à joindre les deux bouts.
Les consommateurs aussi sont pénalisés.
Oui, l'introduction récente de cette taxe de 10% sur les recharges et de 1% sur les retraits suscite une vive controverse parmi les utilisateurs, s'exclame Mali Actu. Si le gouvernement justifie ces mesures par la nécessité de renforcer les finances publiques pour investir dans des infrastructures, de nombreux Maliens y voient une charge supplémentaire pesant sur leur pouvoir d'achat, déjà fragilisé par le contexte économique. Le débat fait rage, pointe encore le site malien. Ces taxes sont-elles un mal nécessaire pour le développement ou bien risquent-elles de freiner l'essor du mobile monnaie? Et attention, prévient encore Mali Actu, cette hausse des coûts pourrait inciter certains consommateurs à se tourner à nouveau vers les paiements en espèces ou les circuits informels. Si cette réaction est compréhensible, elle n'est pas sans risque, exposant les utilisateurs à des fraudes et à un manque de recours en cas de litige. L'expérience d'autres pays africains ayant instauré des taxes similaires suggère un possible repli temporaire vers une économie informelle.
Le National, toujours à Bamako, hausse le ton.
Ces taxations ont été rendues effectives à la hussarde, pour ne pas dire à la force des baïonnettes, en l'espace d'un petit mois, avec des justifications déroutantes, s'exclame le National. Il a été d'abord prétendu que ces nouvelles taxes serviraient à régler pour de bon le problème énervant des coupures de courant, puis des terminologies savantes sont venues au secours pour expliquer que les produits récoltés serviront à financer des infrastructures indispensables à la souveraineté du pays. En tout cas, pour éviter un rejet massif du mobile monnaie, les autorités maliennes ont un rôle clé à jouer, affirme MaliWeb. Elles doivent renforcer la communication sur l'utilité de ces taxes et leurs bénéfices pour la population, en expliquant comment ces fonds seront utilisés, amélioration des services publics, digitalisation de l'économie, développement d'infrastructures. Elles peuvent apaiser les craintes et encourager l'adhésion.
Reste que les militaires au pouvoir à Bamako ne s'attendaient sûrement pas à ce qu'une nouvelle taxe devienne un tel sujet de crispation, relève pour sa part le Monde africain.
Oui, le sujet est à la une des journaux, on l'a vu, et dans la bouche des commentateurs, remettant en tête des préoccupations, le sujet lancinant du coût de la vie. Les partis politiques sont également mobilisés et de leur côté, les militaires sont à la recherche de financement. La défense continue de mobiliser le quart des dépenses publiques, note encore le Monde Afrique, et cette année, le budget de l'Agence nationale de la sécurité d'État, les services de renseignement continuent encore d'augmenter.
Frédéric Couteau, vous serez à nouveau avec nous dans une demi-heure pour la revue de presse internationale à la une. À quand un vrai cessez-le-feu en Ukraine?
Eh bien, nous le verrons, la presse est plutôt dubitative ce matin après les faux-semblants de l'accord sur la mer Noire entre Trump et Poutine.
Eh bien, on en parle à 8h15 tout à l'heure. Merci Frédéric Couteau.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Et justement, des drones, dont deux au-dessus de la mer Noire, ont été abattus par la Russie cette nuit. C'est ce qu'a dit le ministère russe de la Défense. Et cela intervient au lendemain de l'annonce par Washington de cet accord de cessez-le-feu en mer Noire entre Russie et Ukraine. Toutefois, pour le Kremlin, cet accord ne pourra entrer en vigueur qu'après la levée des restrictions occidentales sur le commerce de céréales et d'engrais russes. Washington dit s'inquiéter des arrestations et des manifestations en Turquie, le pays où pour le septième soir consécutif hier, des manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes. Mouvement né de l'arrestation la semaine dernière du maire d'Istanbul. Plus de 1400 personnes ont déjà été arrêtées en marge des cortèges. Un média outil annonce ce mercredi 17 nouvelles frappes américaines sur les régions de Saada et de Amra dans le nord-ouest du Yémen. À la une de notre site internet d'ailleurs à cette heure-ci, États-Unis, la Maison-Blanche tente de calmer la polémique après la diffusion d'informations militaires justement sur le Yémen. En Corée du Sud, un hélicoptère déployé pour la lutte contre les incendies en cours dans le pays s'est écrasé ce mercredi et selon le service local des pompiers, le pilote est mort. Cela fait 19 décès en tout depuis le début de ces incendies meurtriers qui ravagent en ce moment le sud de la Corée du Sud, favorisé par un temps sec et pluvieux. Plusieurs milliers d'hectares ont par ailleurs été déjà réduits en cendres. Je ne veux pas être porté par un parti ou un clan, mais par le peuple gabonais. Les mots de notre grand invité Afrique ce matin, le chef de la transition au Gabon, Brice Clotaire-Oligui Nguema, à 3 semaines de la présidentielle dans le pays, à laquelle il est candidat. Ce sera le 12 avril prochain. Il répond aux questions de RFI et de France 24 à Libreville, avec Jadel Khoury à la technique.
Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité est Brice Clotaire-Oligui Nguema, le président de la transition au Gabon. Merci beaucoup, monsieur le président, de nous accueillir. Il y a 19 mois, à la tête de la garde présidentielle, vous avez renversé Ali Bongo. Vous avez promis de remettre le pouvoir aux civils. Or, vous êtes candidat pour la prochaine élection présidentielle qui est prévue le 12 avril. Pourquoi ce revirement? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision?
Ali Bongo Ndimba a été renversé. Effectivement. Et je l'ai dit dans mon discours à la nation lorsque j'ai prêté serment. Nous allons organiser des élections libres, transparentes et apaisées en vue de rendre le pouvoir aux civils. Je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. Et vous parlez français aussi bien que moi. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». J'ai renoncé à mon statut de militaire. Je concours en tant que civil. Je suis un civil, tout comme les autres.
Alors, vous avez parlé d'Ali Bongo. Son épouse, Sylvia, son fils, Nourdine, sont en prison depuis 18 mois, poursuivis pour des malversations financières. Un de leurs avocats affirme qu'ils sont détenus illégalement, mais même torturés. Il y a une plainte qui a été déposée en France. Un juge enquête sur ces faits, parce qu'ils, je le rappelle, ils ont aussi la nationalité française. Votre réaction?
Au Gabon, nous sommes un pays respectueux des droits de l'homme. Si on a réussi à faire un coup d'État sans effusion de sang, c'est pas deux individus qui seront torturés dans ce pays. Je doute fort. La preuve, c'est que vous avez vos responsables à l'ambassade qui les rendent visite en prison. Posez-leur la question. Il n'y a aucune marque de torture sur leur corps. Et laissez la justice faire son travail. Il y a le temps de la justice.
Monsieur le Président, le problème, c'est que le temps s'étire. Ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Alors, est-ce qu'il va y avoir un procès?
Le procès aura lieu et il sera équitable. Je pense, selon le code gabonais, pour des crimes, on peut aller jusqu'à 2 ans d'enquête. Et les enquêtes se poursuivent.
On y est presque, donc.
Vous le dites.
Alors, beaucoup de caciques de l'ancien régime, on vient de parler des deux personnes poursuivies, beaucoup se sont ralliés à votre candidature. L'ancien parti au pouvoir, symbole de l'ère Bongo, le PDG, va aussi se rallier à vous. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement, vous ne faites que perpétrer le système qui était en place, qu'en somme, vous faites du Bongo sans Bongo?
Je ne suis pas PDGiste. On ne peut pas me dire que dans un gouvernement de 35 ministres, il n'y a que 5 PDGistes. Et on dit que c'est les plus nombreux au gouvernement. Et je vous le dis, il faut les compter au gouvernement. Laissez les gens parler, comme au Gabon le dit, c'est du Congo, ça. J'ai vos élections, j'ai mis une plateforme en place. Les bâtisseurs, tout comme le président Macron l'avait fait, la République en marche. Je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas d'association, parce que je ne veux pas être tenu par un parti politique ou par une quelconque association. Je veux être porté par le peuple gabonais, pas par un groupe ou un clan.
Alors pour cette présidentielle, il y a 8 candidats. Mais les règles sont tellement restrictives qu'en dehors de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinzé, aucun poids lourd ne peut se présenter contre vous. Du coup, on se demande si vous n'avez pas sciemment exclu le professeur Albert Ondosa, qui est le vrai vainqueur d'août 2023, Pierre Claver-Maganga Moussavou et le syndicaliste Jean-Rémi Yama, parce qu'ils pouvaient peut-être vous battre ou au moins vous forcer à un deuxième tour.
Au-delà de 70 ans, on ne peut plus être candidat. C'est le choix des Gabonais. Ce n'est pas mon choix. Je n'exclus personne. Avez-vous vu un général qui a peur de quelqu'un? Quelqu'un qui fait un coup de la libération et qui va avoir peur d'un Ondossa, de Maganga Moussavou ou de quelqu'un d'autre? C'est de la manipulation politique. Qu'on respecte pour une fois ce que les Gabonais veulent et ce que la Constitution a demandé ou exigé. Ce pays doit changer et il va changer.
Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus sur nos deux antennes, France 24 et Radio France Internationale.
Le chef de la transition au Gabon, Brice Clotaire-Oligui Nguema, il répondait à Christophe Boisbouvier et à Marc Perelman avec les moyens techniques de Jadel Khoury. Entretien à retrouver en vidéo et sur la longueur sur notre site www.rfi.fr. Maman, ce matin, vous nous dites qu'au Gondwana, très très démocratique république, il arrive qu'un dirigeant égare quelques milliards, mais sans le faire exprès.
Oui, il y a des choses qui n'arrivent qu'au Gondwana, des choses surprenantes il y a quelque temps, mais aujourd'hui devenues monnaie courante et sans jeu de mots. Le seul à ne pas s'être encore habitué à ça, c'est le Gondwanais lambda qui tombe littéralement de sa chaise quand il apprend que tel ministre ou tel dirigeant d'une entreprise publique a avoué benoîtement avoir perdu la trace de quelques milliards dont il avait pourtant la charge. Le Gondwanais lambda, éternel tireur du diable par la queue, ne comprend pas comment une telle chose peut arriver, lui qui sait toujours combien d'argent il a dans sa poche au centime près. Par exemple, quand il pense avoir perdu la trace d'un petit billet ou d'une petite pièce, il sait exactement où chercher. Il retourne les poches de tous ses pantalons et chemises, il regarde sous le lit, sous l'oreiller, partout où la main passe et repasse. S'il ne le trouve toujours pas, il refait mentalement tout son trajet de la journée jusqu'à repérer l'exact moment où il est susceptible d'avoir égaré ou de s'être fait subtiliser son petit billet. Dans 100% des cas, le Gondwanais lambda arrive à retrouver son dû, car son dû est tout rikiki et c'est tout ce qu'il a. C'est pour ça qu'il faut pas venir lui embrouiller la tête en lui disant que quelqu'un a perdu la trace de quelques milliards. Quand il a entendu ça la première fois, le Gondwanais lambda s'est d'abord assis au bord de la route, puis s'est demandé si un milliard, c'est possible que ça existe et à quoi ça peut ressembler. 5 000 francs, d'accord, il peut visualiser ça, mais 1 milliard, ça le dépasse. En tout cas, le seul conseil qu'il peut donner à celui qui a perdu ces milliards-là, c'est de faire comme lui. D'abord, il faut qu'il se demande vraiment si ces milliards étaient bien dans sa poche. Parce que des fois, on est sûr d'avoir une grosse liasse de billets dans la poche, puis quand on la sort de sa poche, là, on se rend compte qu'en fait, c'est juste 2 ou 3 billets qui étaient froissés. Mais entre nous, quelques milliards, même froissé, ça doit prendre beaucoup, beaucoup de place dans une poche. Ensuite, s'il est sûr qu'il avait ses milliards sur lui, le ministre n'a qu'à bien repenser à ce qu'il a fait au moment où il a été obligé de sortir de la maison en courant. Parce que des fois, dans la panique, on ne sait pas ce qu'on fait. Est-ce qu'il a oublié les milliards sur la table ou dans la poche de son pantalon ou bien ils sont tombés par terre? Oui, on sait tous qu'il y a des gens, quand ils voient un gros billet par terre, ils ne disent rien, ils mettent leur pied dessus et ni vu ni connu, quand tout le monde est parti, il se baisse et empoche l'argent. Mais entre nous, pour cacher quelques milliards sous tes pieds, il faut que tu aies de très très grands pieds. En tout cas, le gars là, le ministre ou le DG, il n'a qu'à bien chercher. Nous, on le regarde et on attend. À demain.
Merci Maman, à demain. RFI, on reste ensemble dans une minute, le journal, et je profite de ces quelques secondes pour saluer nos auditeurs qui nous suivent sur notre live YouTube. Bonjour à vous et merci de nous écrire de Pointe-Noire, Abidjan ou encore Dakar. Restez avec nous.
À quoi ça ressemble quand des chercheurs trouvent ? À moi. Grâce à la recherche, je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie, une santé plus fragile, des discriminations. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don à SIDAction sur sidaction.org.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau Hip-Hop.
C'est pas du vent.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Cisjordanie occupée, bande de Gaza, Palestine, que recouvrent ces dénominations ? Il est parfois difficile de s'y retrouver dans cette géographie marquée par la politique, le droit et l'histoire, avec pour chaque zone concernée une réalité un peu différente.
Écoutez Pourquoi RFI dit ça ? Avec Juliette Rangeval, tous les vendredis à 11h10 et 19h40 TU sur RFI.